Ce matin, on va commencer une nouvelle série. Au mois d'octobre, on venait de finir une série, on avait parcouru les 5 solas, vous devez vous en souvenir. C'était les 5 propositions qui résument notre foi évangélique, qui trouvent ses racines dans la réforme. Et comme on fêtait les 500 ans de la réforme, on avait parcouru ensemble ces 5 propositions. On avait vu comment les réformateurs, en se basant sur l'écriture seule, voyaient le salut comme étant le fruit de la seule grâce de Dieu, basé sur l'œuvre de Christ seul, reçu par la foi seule et pour la seule gloire de Dieu. Voilà en quelques mots le résumé de ce que nous avions vu ensemble tout au long du mois d'octobre. Et la série qu'on va commencer ce matin, c'est un peu comme une suite à ces 5 solas. Pendant les semaines à venir, on va parler de la foi en parcourant ensemble une lettre qui se trouve dans le Nouveau Testament, l'Épître de Jacques. Et on a appelé cette série Jacques, la foi en action. Excellent. Par contre, je crois que c'est pas très centré, on va manquer d'informations vers le bas. Ça va aller ? Merci Florian. Donc on va voir ensemble comment la lettre de Jacques nous décrit, nous parle d'une foi en action, d'une foi vivante, une foi en pratique. Quand je parle autour de moi, de la foi, de nombreuses personnes, mes amis, des collègues, des voisins, pensent à un choix, une philosophie, une croyance personnelle. Mais Jacques, on va le voir ensemble, nous parle d'une foi en action, une foi qui se voit, une foi qui transforme, une foi qui n'est pas seulement une somme d'idées, mais qui s'inscrit dans notre quotidien, une foi qui change notre manière de voir le monde et de vivre ensemble. Selon un récent sondage, ce sera un bon exercice de diction. Selon un récent sondage, 100% des Français ont connu ou vont connaître des épreuves. Bon, c'est pas un vrai sondage, c'est moi qui ai... Parce que si les instituts étaient payés pour nous donner ce genre de résultats, il y en a beaucoup qui changeraient de carrière. C'est pas un vrai sondage, en fait, c'est juste la vie sous le soleil. C'est juste la vie dans notre monde actuel. Notre monde marqué par le péché reflète à la fois la beauté de la gloire de Dieu et l'horreur absolue du péché. Nos vies sont marquées à tous par la souffrance. Souffrance physique, souffrance émotionnelle, souffrance psychologique, souffrance spirituelle. Tous, nous connaissons, nous avons connu, nous allons connaître à divers degrés la souffrance. Et le texte que nous allons voir ce matin, le début de Jacques, ne pose pas la question de la raison de la souffrance, mais pose la question de notre réaction à la souffrance. Comment devrions-nous réagir quand nous traversons la souffrance? À quoi devrait ressembler notre foi quand nous traversons des épreuves? Je vous propose de lire ensemble le début de la lettre de Jacques. Je lirai les 11 premiers versets. Je vous laisse chercher. C'est vers la fin de la Bible, après Hébreux, après les épîtres de Paul. Je lis. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Fin de la lecture. J'appelais cette partie la foi qui se réjouit dans les épreuves extérieures. Dans ce passage, Jacques nous donne trois moyens pour nous réjouir dans les épreuves. En persévérant vers le but de Dieu, en demandant l'aide de Dieu et en considérant le regard de Dieu. Et en parcourant ce matin ces trois raisons, nous allons voir que nous pouvons nous réjouir dans nos épreuves parce que Dieu agit à travers elles pour notre maturité. Nous pouvons nous réjouir dans nos épreuves parce que Dieu agit à travers elles pour notre maturité. Le premier verset de la lettre ouvre l'épître à la manière des autres lettres du Nouveau Testament par une salutation. Salutation qui dit à la fois l'auteur de la lettre et les destinataires de la lettre. Et c'est un premier indice qui nous aide à comprendre toute la lettre derrière. L'auteur, c'est Jacques. Alors, il y a plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Mais ici, c'est Jacques, le frère de Jésus, qui écrit. Et Jacques, comme tous les autres frères de Jésus, avant la résurrection de Jésus, Jacques ne croyait pas en lui. Ne croyait pas en Jésus, ne croyait pas dans ce que Jésus disait de lui-même. Mais après, en plus de devenir son disciple, après la résurrection, Jacques va devenir l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Et on voit que Jacques écrit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Alors dans le Nouveau Testament, les 12 tribus désigne souvent l'Église qui est présentée comme le vrai Israël. Donc Jacques écrit aux chrétiens qui ont été obligés de fuir à cause de la persécution en dehors de la Palestine, sûrement ici en Syrie. Et en fait, les chrétiens auxquels Jacques écrit se retrouvent dans une situation un peu similaire à ceux des chrétiens dont on a parlé la semaine dernière, quand on a parlé ensemble de l'Église persécutée. C'est à ce genre de chrétiens dans la persécution sociale, religieuse, économique, c'est à ce genre de chrétiens que Jacques écrit. C'est donc à des chrétiens qui souffrent que Jacques écrit. Et en fait, le passage de ce matin que je viens de lire, il reprend trois grands thèmes qui se répètent tout au long de l'épître et sur lesquels on va revenir dimanche après dimanche. Alors j'ai fait une image pour montrer comment on retrouve ces thèmes dans la lettre. Tu peux afficher l'image, s'il te plaît. Merci. Alors vous n'arrivez pas à lire, c'est normal. C'était juste pour vous donner une idée un peu de comment les lettres se répètent, se retrouvent, et de voir un peu la structure de l'épître de Jacques. On est plutôt habitué, vous vous rappelez qu'on a fait Éphésiens par exemple avec Paul, à avoir deux grandes parties de la lettre, une partie peut-être plus théorique, et ensuite une partie plus pratique, où il tire les conclusions de la partie théorique. Ici on a trois grands thèmes, ou trois grands groupes de thèmes qui se répètent. En bleu, on a les épreuves, la tentation, l'endurance, la persévérance. En orange, on a la sagesse. Alors on verra ce que c'est tout à l'heure, mais la sagesse notamment dans l'usage de la parole. Et en vert, on a la richesse, la pauvreté et la générosité et les rapports qu'il existe entre les chrétiens de différents groupes. Alors bien sûr, il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans la lettre, mais on retrouve cela tout au long de la lettre. Et il y a un autre thème qui traverse toute la lettre et qu'on retrouve comme un fil rouge, c'est celui de la foi. Une foi qui est entière, une foi qui est intègre, une foi en action. Premier point, nous pouvons nous réjouir dans les épreuves en persévérant vers le but de Dieu. Versets 2 à 4. Jacques, il commence sa lettre avec une bombe. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Et on imagine comment cette parole, comment cette exhortation, c'est un verbe à l'impératif, comment cela devait résonner dans la tête des chrétiens persécutés, dispersés, qui ont tout perdu. Comment ils devaient accepter cette parole? Comment ils devaient la recevoir? Et cette parole résonnait fort à l'époque, mais elle résonne encore fort aujourd'hui, quand nous-mêmes, nous la lisons. On l'a dit, chacun a traversé, traverse ou va traverser des épreuves. Mais plutôt que de nous priver de notre joie, Jacques nous dit que nous devrions trouver de la joie dans les épreuves. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Est-ce que c'est une joie qu'on porte comme un masque? Est-ce que c'est la joie du grand sourire quand on arrive le dimanche matin? Ça va, tout va bien? Oui, oui, bien sûr, par la grâce de Dieu. En quoi on peut considérer nos épreuves comme un sujet de joie? Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite? Ou pire, est-ce que ce n'est pas un peu masochiste? Alors, d'emblée, il faut dire que Jacques ne nie pas les souffrances qui sont liées aux épreuves. Il ne dit pas que les souffrances ne sont pas réelles, il ne dit pas que nous ne devrions pas ressentir de la douleur dans les épreuves. Il ne dit pas que nous ne devrions pas ressentir de la douleur quand nous traversons le rejet, la trahison, la maladie, le deuil, le chômage, la dépression. Toutes ces choses sont réellement douloureuses. Et Jacques ne dit pas que la joie est la seule réponse aux épreuves. Mais il dit qu'au sein des épreuves, la joie est une vraie réponse, qu'au sein des épreuves, nous avons de vraies raisons de nous réjouir. Et pourquoi se réjouir dans nos épreuves? Parce que Dieu agit à travers elles pour notre maturité. Comme un sculpteur, Dieu est en train de nous tailler pour nous faire ressembler à Christ. Et si Jacques parle des épreuves, il ne parle pas des conséquences de notre péché. C'est normal, à cause du péché, que nous soyons dans des situations douloureuses. Mais si Jacques parle des épreuves qui surviennent, qui sont extérieures à nous. Un auteur a dit « L'épreuve est le pinceau dont Dieu se sert pour tracer l'image de Christ » plus distinctement en nous. Il est bon d'être rendu semblable à Christ, bien que cela se produise dans la souffrance. Et ce que Dieu veut, nous rappelle Jacques, c'est que nous soyons parfaits à l'image de Christ. Alors bien sûr, cette transformation ne sera complète que lorsque Christ reviendra et que le péché ne sera plus. Mais toute notre vie chrétienne tend vers ce but de ressembler de plus en plus à Christ. Et l'œuvre parfaite que les épreuves doivent accomplir, nous dit Jacques, c'est une ressemblance toujours plus grande au caractère de Jésus. Alors, évidemment, on ne devrait pas chercher les épreuves pour ressembler à Christ. Dans tous les cas, elles arriveront. Mais nous ne devrions pas non plus chercher à échapper aux épreuves. Parce que c'est un moyen, nous dit Jacques, que Dieu utilise pour notre maturité, pour nous transformer, pour renforcer notre foi. Et si on considère ce que Jacques nous dit ici, il y a deux choses auxquelles nous devrions faire attention. D'abord, on devrait faire attention au péché. Les souffrances forment souvent le terrain sur lequel le péché se développe facilement. Celui qui est rejeté dans son travail, par exemple, sera tenté de mentir pour préserver le peu de réputation qui lui reste. Celui qui a une addiction à la pornographie sera tenté de céder à la pression plutôt que de résister, de persévérer dans la frustration. Celui qui souffre dans son corps sera tenté de faire appel à un barreur, à un guérisseur, pour abréger les douleurs. La souffrance nous pousse au péché. C'est une réalité qu'il faut connaître et reconnaître pour faire attention au sein des épreuves. Et un ami, une fois, a dit « Il faut accepter la souffrance et fuir le péché alors qu'on est tenté d'accepter le péché et fuir la souffrance. » Il faut accepter la souffrance et fuir le péché alors qu'on est tenté d'accepter le péché et de fuir la souffrance. Deuxième chose, nous devrions faire attention au confort. Parce que les épreuves sont dures, nous sommes tenter de rechercher le confort. Mais d'après ce que Jacques nous dit ici, rechercher le confort, vouloir échapper aux épreuves, c'est se priver d'un instrument que Dieu utilise pour notre maturité. J'aime beaucoup l'image d'un théologien, Hayden Tozer, qui prend l'image de deux champs. La première terre, il nous dit, et une terre au repos, c'est une terre en friche. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu passer ni la charrue, ni la herse. C'est un champ sûr, c'est un champ tranquille, c'est un champ paisible. Mais Tozer continue. Cependant, il paie un prix élevé pour sa tranquillité. Jamais il ne voit le miracle de la croissance. Jamais il ne sent le mouvement de la vie en formation, ni les merveilles de l'éclosion de la semence, ni la beauté du grain mûrissant. Il ne saura jamais ce que c'est que du fruit, parce qu'il a peur de la charrue et de la herse. D'un autre côté, on a le champ labouré, qu'il n'est pas laissé tranquille. Le théologien dit, « Le champ a senti les douleurs de la transformation. Il a été dérangé, retourné, meurtri et brisé. Mais ses souffrances seront bientôt récompensées. La lumière du jour voit émerger de la terre le miracle de la vie. » Oui, en vérité, la charrue précède les merveilles de la nature. La charrue, dans cette image, étant bien sûr l'action de Dieu au travers de nos épreuves. Et c'est un grand encouragement pour nous. Dieu est au contrôle. Les épreuves ne sont pas bonnes. Mais ce que Dieu fait dans et par les épreuves est bon parce que lui est bon. On ne comprend pas toujours la raison. On ne comprend pas souvent la raison. On comprend rarement la raison de nos épreuves. Mais nous pouvons avoir confiance. Dieu est bon et Dieu se sert de nos épreuves pour nous faire grandir. Pour faire grandir notre foi. Pour que nous puissions l'aimer plus. Pour que nous puissions le connaître mieux. Et en cela, nous pouvons nous réjouir. Certains pensent peut-être, sympa Mathieu, plus facile à dire qu'à faire. Et c'est aussi ce que je me suis dit quand j'ai lu ce texte. Et Jacques nous dit dans ses premiers versets pourquoi nous pouvons nous réjouir dans nos épreuves. Dans les versets suivants, il nous dit comment. Et deuxième point, nous pouvons nous réjouir dans les épreuves en demandant l'aide de Dieu. Pour nous aider, dit Jacques, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Alors la sagesse dans la Bible, c'est comprendre ce que Dieu fait et répondre comme Dieu attend. J'aime bien cette définition. La sagesse, c'est combiner le savoir et l'expérience pour vivre une vie vertueuse. On vit dans un monde où l'on a accès à beaucoup de connaissances. On a accès à une avalanche d'informations et de formations en tout genre. Des livres, des cours, des articles, des séminaires, des sites internet, des chaînes à n'en plus finir. Et plus que jamais, nous avons accès au savoir. Mais la Bible nous dit que la connaissance ne fait pas la sagesse. La sagesse n'est pas qu'information, la sagesse est action. La sagesse, c'est la foi en action. C'est d'ailleurs quelque chose que Jacques développera, on le verra plus tard, au chapitre 3. Il dit que l'on voit la sagesse d'un homme en regardant à sa conduite. Être sage, finalement, c'est vivre comme Dieu veut. Mais comment ? Comment on peut vivre comme Dieu veut ? Encore plus, comment on peut vivre comme Dieu veut au sein des épreuves et lorsque l'on souffre ? Et Jacques nous donne la solution. Si nous manquons de sagesse, il nous faut la demander à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à comprendre ce qu'il veut et à vivre d'une manière qui l'honore. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à considérer les épreuves comme un sujet de joie. Mais dans nos vies, dans ma vie, est-ce que je me tourne vers Dieu en premier ou en dernier ? Parfois, nous, moi inclus, nous faisons comme si nous pouvions contrôler les choses. Nous n'appelons les dieux qu'en dernier ressort. On essaye tout et puis à la fin on dit « Bon maintenant, il ne reste plus qu'à prier. » Notre dernière cartouche. Mais prier, nous dit Jacques, ce n'est pas la dernière chose à faire, c'est la première. Si nous manquons de sagesse, il n'y a rien d'autre à faire que de la demander à Dieu. Parce que nous ne la trouvons nulle part ailleurs. Seul Dieu peut nous aider à faire ce qu'il demande. Cette réalité nous maintient à la fois dans la dépendance et dans l'humilité. Nous avons besoin de ce que Dieu donne pour vivre ce que Dieu ordonne. Et Jacques nous met en garde. Il dit « Notre attitude reflète notre foi ». Il nous dit « Celui qui doute est partagé ». Littéralement, il dit « Celui qui doute a l'âme partagée ». Quelque chose qu'on retrouvera aussi dans un chapitre suivant. Et ici, Jacques compare celui qui doute aux vagues de la mer, qui sont inconstantes, incessamment mouvantes, balayées par le vent. Ici, Jacques ne parle pas d'un chrétien qui passe par le doute. Il parle d'un chrétien qui est caractérisé par le doute. Et celui qui doute, par définition, ne fait pas confiance à Dieu. Il remet en cause qui est Dieu. Il va chercher des solutions ailleurs qu'en Dieu. Il écoute parfois les conseils de Dieu. Il écoute parfois les conseils du monde. Il écoute la voix le dimanche, le lundi, mardi jusqu'à midi. Et la voix du monde le reste de la semaine. Mais nous avons des raisons d'être encouragés. Parce qu'au milieu des épreuves, quand nous ne comprenons pas pourquoi on peut se rappeler qui est Dieu, que Dieu est bon et qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, Dieu nous promet qu'il nous donne la sagesse dont nous avons besoin pour nous réjouir au sein des épreuves. Dieu nous donne libéralement, généreusement, nous dit Jacques, sans faire de reproche. Et ici, on entend les échos des paroles de Jésus, le frère de Jacques, que nous retrouvons dans le sermon sur la montagne. Si donc, je cite Jésus, si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Dieu se plaît à nous donner ce qu'il nous a promis. Dieu se plaît à nous donner ce dont nous avons besoin pour lui obéir. Dieu se plaît à nous donner tout cela généreusement parce qu'il est bon, parce que ça correspond à qui il est. Troisième point. Nous pouvons nous réjouir dans les épreuves en considérant le regard de Dieu. On a vu comment ces 11 premiers versets, cette première partie, en fait, reprend trois thèmes, les trois thèmes qu'on va retrouver dans tout le reste de la lettre. Donc, au début, on avait les épreuves, la persévérance, l'endurance. Deuxièmement, on avait la sagesse. Et ici, on parle des pauvres et des riches. Et Jacques, ici, nous présente un renversement des statuts, un renversement complet. Il dit, le pauvre qui est abaissé aux yeux du monde est élevé par Dieu. En revanche, le riche qui est élevé aux yeux du monde sera humilié par Dieu. Et pour parler du riche, Jacques utilise une image forte, une image qui est reprise plusieurs fois dans l'Ancien Testament, chez le prophète Ésaïe dans les psaumes. Il dit « Le riche est comme l'herbe qui va perdre l'éclat de sa beauté et qui finira par se flétrir. » Et ces derniers versets à nous aujourd'hui nous posent la question « Finalement, qu'est-ce qui me définit ? Est-ce que c'est ma place dans le monde ? Ou est-ce que c'est ma place au regard de Dieu ? Et au milieu des épreuves, à quoi je me raccroche ? À mon statut devant le monde ou à mon statut devant Dieu ? Est-ce que je me raccroche à ce que le monde pense de moi ? Ou est-ce que dit Dieu de moi ? Et notre valeur et notre estime, nous rappelle Jacques ici, n'est pas définie par ce que l'on a aux yeux du monde, mais par qui l'on est aux yeux de Dieu. Et encore une fois, si on prête l'oreille droite à ce que Dieu dit et l'oreille gauche à ce que le monde dit, nous serons partagés. Et on va construire le risque. On va courir le risque de construire des moyens de nous élever pour être bien vus aux yeux du monde, pour être bien vus dans l'église, pour être bien vus au travail, pour être bien vus dans notre voisinage, même pour être bien vus aux yeux de notre époux, de notre épouse, de nos fiancés, de notre fiancé, de nos amis. Est-ce que finalement, ma position, est-ce qu'elle me pousse à l'orgueil ? Ou est-ce qu'elle me pousse à me comparer aux autres pour que je puisse me sentir bien ? Ça, c'est le ressort de la publicité. Toute la publicité nous pousse à posséder plus pour que l'on puisse se sentir mieux. Mais il n'y a pas que la publicité, il y a quelque chose de beaucoup plus fort et puissant de nos jours, les réseaux sociaux et les applications sont conçus pour que nous mettions notre vie en scène. Si je parle de Facebook, d'Instagram ou de Twitter, qui ne sait pas du tout à quoi je fais allusion ? n'y a pas de honte. Hein. Donc tout le monde sait ce que c'est. Excellent. Au moins une image qui va marcher. Et récemment, justement, je lisais un tweet que j'ai trouvé excellent, qui donnait des définitions simples. Il disait « Instagram, tout le monde est beau. Facebook, tout le monde est content. Twitter, tout le monde est intelligent. » Sur ce dernier, je suis moins sûr. Mais en fait, il y a quelque chose de très vrai dans cette citation. Tous les réseaux sociaux sont conçus pour que nous présentions notre meilleure version de nous-mêmes. Ce qui compte, c'est que les autres pensent que notre vie est géniale. Et de nombreux articles cette année relataient la manière dont beaucoup d'adolescents, qui sont les plus grands consommateurs de ces réseaux sociaux, de ces applications, comment beaucoup d'adolescents se sentaient mal et voyaient leur image et leur estime d'eux-mêmes baisser parce qu'ils étaient perturbés à cause de ce qu'ils voyaient et parce qu'ils étaient poussés implicitement ou explicitement à se comparer à ce qu'ils voyaient. Sur Instagram, cette application où l'on poste des photos, surtout des photos de gens qui font de la gym et qui mangent des fruits avec du muesli. Il n'y a pas que ça, mais beaucoup ça quand même. Quand on va sur Instagram, on voit des gens en pleine santé, qui ne mangent que des choses saines et qui ont des corps sans défaut. Puis après, on passe devant le miroir. Mais au-delà des réseaux sociaux, c'est notre péché qui nous pousse à nous comparer. Mais Jacques ici nous rappelle que nous ne devons pas regarder à ce que nous avons ou à ce que nous n'avons pas, mais à regarder à Dieu. C'est dans son regard que l'on retrouve notre vraie place. Et notre joie ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas, mais de qui nous sommes. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ceux que Dieu aime. Et ça, ça nous garde dans l'humilité. Mais ça nous encourage également. Celui qui est abattu, nous dit Jacques, peut se glorifier. Il peut être fier parce qu'il est élevé aux yeux de Dieu. C'est une allusion très forte, un passage dans Jérémie 9 qui dit que l'homme ne se glorifie pas de sa force, de ses chevaux, je cite de tête, ou de ce qu'il a, en gros, de ce dont il pourrait se vanter, mais qu'il se glorifie de me connaître, moi, l'Éternel. Voilà de quoi nous pouvons nous vanter. Et ça, ça fait une moins belle image Instagram, mais ça fait une réalité beaucoup plus glorieuse. Les épreuves peuvent nous laisser dans l'affliction, mais le regard de Dieu sur ses enfants nous réconforte. Ce matin, on a vu donc qu'on peut se réjouir dans les épreuves parce que Dieu agit à travers elles pour notre maturité. On a vu comment, en persévérant vers le but de Dieu, en demandant l'aide de Dieu et en considérant le regard de Dieu. Et Jacques nous donne une perspective nouvelle sur les épreuves. Les épreuves, la souffrance, tendent à ce que nous nous replions sur nous-mêmes. Mais Jacques nous invite à prendre du recul et à considérer le but, l'aide et la vision de Dieu sur et dans nos épreuves. Et en guise d'application, j'aimerais vous laisser trois questions pour cette semaine. Et si vous êtes dans l'épreuve, je prie que ces questions vous aident à trouver la joie au sein de cette période. Et si vous n'êtes pas aujourd'hui dans l'épreuve, je prie que ces questions vous aident à réagir avec sagesse quand elles viendront. Vous les voyez affichées ? Dans les épreuves, est-ce que j'ai tendance à vouloir m'en échapper, quitte à pécher ? Ou à persévérer, quitte à souffrir ? La question qu'il y a derrière, c'est sur quoi je devrais me battre plutôt que de céder. Pourquoi je devrais demander pardon à Dieu et pourquoi je devrais lui demander de l'aide. Deuxième, est-ce que j'ai tendance à prier pour que Dieu m'aide en premier ou en dernier? Et la question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce que je devrais remettre à Dieu ce matin, maintenant. Troisième question, est-ce que mon assurance et ma joie dépendent de ce que le monde pense ou de ce que Dieu dit? La question qu'il y a derrière, c'est comment je peux ancrer ma joie en Dieu cette semaine?